Il ne vient point, avait répondu l'âme, et il ne viendra jamais ici. Nous avons toutes été témoins, à son occasion, d'un affreux spectacle. Lorsque nous étions sur le point de sortir de l'abîme souterrain, après avoir accompli nos peines, nous vîmes tout à coup Hardier et un grand nombre d'autres, dont la plupart étaient des tyrans comme lui. Il y avait aussi quelques particuliers qui, dans une condition privée, avaient été de grands scélérats. Au moment qu'ils s'attendaient à sortir, l'ouverture leur refusa le passage, et toutes les fois qu'un de ces misérables dont les crimes étaient sans remède ou n'avait pas été suffisamment expié essayait de sortir, elle se mettait à mugir. Alors, des personnages hideux, aux corps enflammés, qui se trouvaient là, accoururent à ces mugissements. Ils emmenèrent d'abord, de vive force, un certain nombre de ces criminels. Quant à Hardier et aux autres, ils leur lièrent les pieds, les mains, la tête, et, les ayant jetés à terre, et écorchés à force de coups, ils les traînèrent hors de la route, à travers des ronces sanglantes, répétant aux ombres, à mesure qu'il en passait quelqu'une, la raison pour laquelle ils les traitaient de la sorte, et qu'ils allaient les précipiter dans le Tartare. Cette âme ajoutait que, parmi les terreurs de toute espèce dont elles avaient été agitées pendant la route, aucune n'égalait celle que le mugissement ne se fit entendre quand elle s'avancerait pour sortir, et que ça avait été pour elle un moment de vive joie de ne pas l'avoir entendue en sortant. Tels étaient à peu près les jugements des âmes, leurs châtiments, ainsi que les récompenses qui y correspondent. Après que chacune de ces âmes eut passé 7 jours dans cette prairie, il leur avait fallu en partir le 8e, et se rendre en 4 jours de marche dans un lieu d'où l'on voyait une lumière traversant toute la surface de la terre et du ciel, droite comme une colonne et semblable à l'iris, mais plus éclatante et plus pure. Elles y étaient arrivées après un autre jour de marche. Là, elles avaient vu que les extrémités du ciel aboutissaient au milieu de cette bande lumineuse qui leur servait d'attache et reliait le ciel en embrassant toute sa circonférence, comme ces pièces de bois qui saignent les flancs des galères. À ses extrémités était suspendu le fuseau de la nécessité, lequel donnait le branle à toutes les révolutions des sphères. La tige et le crochet de ce fuseau étaient d'acier. Le peson était un mélange d'acier et d'autres matières. Voici comment ce peson était fait. Il ressemblait pour la forme au peson d'ici-bas, mais, d'après la description donnée par l'Arménien, il faut se le représenter comme contenant dans sa vaste concavité un autre peson plus petit, de forme correspondante, comme des vases qui s'ajustent l'un dans l'autre.